Radiophobes.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Eckhard Runge.
Bonjour.
Vous êtes le violoncelliste du Quatuor Artemis et vous êtes d'ailleurs le seul survivant, on pourrait dire, de la première de la première version, c'est ça?
Survivant entre guillemets.
Le dernier des Mohicans, Quatuor que vous avez fondé en 1989. Oui. Vous publiez chez Virgin Classics un nouvel album. Alors là, cette fois-ci, on a un peu refermé le chapitre Beethoven qui vous a pris pas mal de temps avec cette superbe intégrale. Et là, vous sortez un album Schubert, dans lequel il y a notamment la jeune fille et la mort, le Quatuor Rosamunde. Comment on décide finalement les programmes qu'on veut enregistrer? Comment ça se passe quand vous décidez vraiment de graver dans la cire quelque chose? Est-ce que, notamment, un album Schubert un peu, bah c'est quand même différent de Beethoven? C'était une manière de vouloir changer complètement de braquet?
Non, pas du tout. C'est plutôt comme ça que notre activité d'enregistrement de disques accompagne la programmation du répertoire des concerts. Donc, pour donner une réponse très simple, on va enregistrer ce qu'on puisse jouer dans les concerts. Et bien sûr, ça c'est un grand thème de planifier les répertoires qu'on va jouer. Et ça, c'est toujours une discussion à quatre dans le quatuor où on veut mettre un peu l'apogée dans la prochaine saison. S'il y a des liens entre les saisons, de faire quelque chose. Et bon, Schubert nous a accompagnés depuis longtemps, bien sûr. Et il y avait une saison 2009 où on a joué tous les trois quatuors de Schubert. Donc, on a décidé de les enregistrer. Et ça, c'était dans une période au milieu de tous les enregistrements de Beethoven. Donc, maintenant, on les reprend pour le répertoire de concert, parce que c'est toujours bien, si on sort une disque, d'avoir aussi des programmations telles qu'il y a du répertoire de ce disque dans les programmes de concert, parce que les gens aiment bien acheter les trucs qu'ils ont entendu.
Je veux le CD du concert.
Donc, ça va toujours un peu ensemble, la programmation de concert et la programmation d'enregistrement de disques.
Comment vous êtes sorti de cette aventure Beethoven, si on revient un petit peu quelques mois en arrière, donc cette intégrale, ces concerts, en plus des œuvres, enfin, les quatuors de Beethoven qui étaient presque à l'origine de la formation peut-être du quatuor, j'imagine, en 89.
Oui,
quelque chose comme ça qui vous suit finalement tout le temps, quoi.
Voilà, ça nous poursuit pendant notre vie, mais on a toujours adoré, on a toujours eu une espèce d'affection spéciale pour Beethoven, et on s'est jamais considéré comme un quatuor qui veut faire des espèces d'intégrales de, je sais pas, pour faire un complet de Haydn ou un complet de Mozart. Ça nous a jamais vraiment intéressé, sauf Beethoven. Ça, c'était un vieux rêve, mais comme l'univers de Beethoven est tellement varié et tellement vaste et plein de contrastes, je pense que un programme monothématique comme Beethoven, ça marche très bien. Déjà, un programme monothématique autour de Schubert ou Haydn, c'est peut-être un peu plus difficile pour nous. En tout cas, après 2 années où on a fait que Beethoven. C'est super de nouveau de jouer des autres trucs.
De jouer autre chose. Mais quand même, dans ces autres trucs, il y a des choses quand même assez emblématiques. C'est vrai que La jeune fille et la mort, par exemple, c'est un quatuor, c'est une sorte de... Ça fait partie toujours des œuvres les plus, parfois les plus connues du quatuor à cordes. Quand vous abordez justement dans votre discographie, qui est assez vaste, il n'y a pas que des œuvres connues, votre quatuor crée du contemporain, on en parlera aussi. Il y a quand même, quand vous abordez justement une œuvre où il y a énormément de références discographiques, où il y a un nombre d'enregistrements incroyables qui est joué énormément, comment vous êtes justement par rapport à ça, d'un côté jouer parfois des œuvres oubliées, peu connues, peu enregistrées, voire les créer, ou alors au contraire, vous attaquer des best-sellers, entre guillemets, pour utiliser un mot horrible, avec plein de références. C'est la même chose au bout du compte ou pas ?
Ça doit être un bon mélange. Je pense, on ne peut pas se plonger ni seulement sur un ou l'autre. Je pense, si on cherche que des niches, ça ne marche pas. Mais c'est toujours un grand challenge d'enregistrer quelque chose dont il y a encore déjà 30 000 versions différentes et les gens vont tout de suite les comprendre, comparer. Mais je crois chaque quatuor rêve d'enregistrer les grands chefs d'œuvre et c'est une question quand on se sent prêt à faire ça.
Comment vous avez grandi musicalement avec les enregistrements historiques ? Est-ce que quand vous étiez étudiant, vous écoutiez, vous dévoriez tous les enregistrements historiques ? Vous étiez, ou pas spécialement, vous étiez essentiellement proche de la partition et de vos professeurs ?
Il y a un peu toujours deux écoles. Chacun dans les quatuors a fait ça de sa propre philosophie. Moi, j'étais toujours quelqu'un qui aimait bien entendre beaucoup d'enregistrements. Il y a aussi une philosophie proclamé dans notre quatuor, si on écoute trop d'enregistrements, on est influencé et il faut garder sa indépendance vis-à-vis de l'œuvre qu'on apprend. Moi, je crois que j'aime bien une variété d'impressions. Je ne me sens pas du tout influencé, pas plus que je suis de toute manière. Je suis influencé de tout ce que je fais, de tout ce que j'entends. Et malheureusement, je connais déjà La jeune fille et la mort. J'aimerais bien écouter cette pièce pour la toute première fois dans ma vie, mais ça, c'est plus possible. Donc, je me dis, vaut mieux comparer les enregistrements. Il y a plein de choses que j'aime pas dans des autres enregistrements et comme ça je forme un peu mon opinion de ce que je trouve important, de ce que je veux ou pas, et on a une bonne discussion philosophique de ça parmi les quatuors et chacun le fait un peu à son propre goût.
Vous avez utilisé le mot justement, une réflexion. C'est vrai que quand on s'engage dans un quatuor, enfin en musique de chambre, c'est qu'on doit exprimer sa voix, mais pas tout seul. On est pieds et mains liés, comme si à moi, avec les autres. Quand vous êtes engagé, vous avez commencé à étudier la musique, à vous engager là-dedans, vous avez décidé de former un quatuor. C'est une sorte de sacrifice. Comment on fait ce choix de s'exprimer, mais à quatre, finalement, créer une seule voix à quatre
fou,
voix.
Il faut être complètement fou. Non, il faut être enthousiasmé par la chose. Quand nous sommes créés, on n'avait pas l'intention de devenir professionnel. C'était d'abord
les étudiants qui
sont. Voilà, l'enthousiasme pour la chose, un peu comme un enrichissement de notre étude à côté. Donc, on a créé quelque chose pendant 5 ans, sans vouloir être ambitieux professionnellement. Certainement, il faut se poser la question si on veut faire ça principalement ou pas.
Vous personnellement, comment s'est arrivée cette réflexion au début justement ?
Moi, ça c'était. J'ai trouvé ça d'une manière très attirante de faire le quatuor, aussi d'une manière très sincère, très intensive, parce que j'adorais le répertoire pour une côté et pour l'autre côté, j'aime bien cet aspect social du quatuor, qu'on n'est pas seul, mais quand même il faut arriver à quelque chose dans une espèce d'équipe où il faut garder un bon équilibre entre son individu et les collectifs. J'ai toujours aimé bien ça.
Une conversation entre 4 personnes raisonnables, je crois que c'est Goethe qui disait...
Oui, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec Goethe, ce sont plutôt 4 personnes complètement fous. Non, mais je crois qu'il voulait dire raisonnable dans le sens de éclairer des personnes qui osent réfléchir eux-mêmes. Et ça, c'est très, très juste. Ça, il faut, je crois.
Justement, vous êtes, comme on l'a dit au début, vous avez vécu les différents Quatuor Artemis. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs changements dans l'évolution du Quatuor. Il y a eu surtout en 2007 où il y a eu... Comment on vit ce genre de choses où il y a une sorte, finalement, on a parlé effectivement de la quête d'une voix, d'une parole, quand il y a des changements comme ça, comment vous l'avez vécu ces différents chapitres dans cette aventure?
Moi, je crois que... Bon, au début, j'étais un peu nerveux parce que, bien sûr, si on change deux personnes, c'est
la moitié.
Donc, on ne sait pas si on a une moitié qui reste ou une moitié qui est partie. Mais maintenant, je vois ça d'une rétrospective un peu plus à l'aise. Moi, je crois que le changement appartient au quatuor comme à la vie. Et c'est toujours un risque et toujours une chance, d'autre part. Et dans ce cas spécial, on a essayé de chercher des personnalités très fortes parce qu'on croit beaucoup à l'individualité dans le groupe. Nous donner beaucoup d'espace à l'individualité dans le groupe. Et bien sûr, on prend toujours un peu dans la calculation qu'il y aura un changement d'une dynamique et de son dans un quatuor. Mais d'autre part, il y a des gens qui se présentent chez nous parce qu'ils aiment bien notre style. Donc, on ne va pas se présenter dans un quatuor qu'on veut changer complètement. Donc, il y a une espèce de continuité qui reste et des autres aspects qui se renouvellent. Et ça, c'est un processus absolument passionnant.
Vous, à titre personnel, sur votre approche du violoncelle, ça vous a fait concevoir le quatuor différemment quand il y a eu ces changements importants ou c'est une...
Non, pas dans une conception générale, mais certaines choses, bien sûr, j'ai appris par mes nouvelles collègues, j'ai eu des nouvelles inspirations aussi au point de vue de sonorité, au point de vue de différentes approches musicales, et ça je trouve rafraîchissante quand on a des nouveaux gens qui t'inspirent.
Vous, régulièrement, vous jouez des œuvres de musique contemporaine, vous faites des créations, c'est quelque chose d'important pour vous? Est-ce qu'un musicien doit créer la musique de son temps ou pas obligatoirement?
Une bonne question. Moi, je crois que oui. Parce que en jouant la musique contemporaine, on comprend peut-être mieux ce qui était contemporain dans la musique dite établie ou vieille. Enfin, Schubert était super contemporain et Beethoven, d'autant plus quand c'était composé. Donc, si on joue la musique seulement avec une perspective en arrière, je crois qu'on rate un aspect très essentiel de chaque musique. Et on n'a pas de point de référence quand on joue une chose, quand on fait une création. Il n'y a pas d'enregistrement qu'on peut écouter. Donc, il faut s'approcher vraiment à une œuvre de rien du tout. Et ça, c'est une très bonne attitude qu'on peut aussi revivre quand on travaille des œuvres des compositeurs établis.
Alors, vous avez même parfois des projets un peu atypiques, mais il y a eu ce Piazzolla Project, par exemple, ce genre de choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça vous vient comment, ce genre d'idée? C'est des envies de temps en temps d'aller voir ailleurs? C'est le hasard des rencontres?
Non, c'est la curiosité de voir ailleurs. Un intérêt tout à fait personnel, j'adore cette musique. Mais d'autre part, je crois qu'on apprend aussi beaucoup. Parce que, d'abord, il y a cette richesse, disons, rythmique de la musique populaire. Et quand on ne comprend pas ça, on ne comprend pas les mêmes choses qui se passent dans la musique classique. Et tout est dedans. Et moi, je crois que souvent, c'est sous-estimer l'effet et l'importance de la musique populaire. Aussi, par exemple, l'aspect improvisation. Nous sommes plus habitués du tout d'improviser dans la musique classique, tandis que dans le 18e siècle, c'était une chose normale d'improviser une cadence, par exemple. Et quand on joue un tango ou du jazz, on est forcé de jouer un peu à côté du texte. Et chaque bonne musique écrite, disons Beethoven, doit sonner comme si elle était improvisée du moment. Et je crois que si on s'occupe un peu avec cet aspect d'improvisation, on gagne une nouvelle perspective aussi sur la musique qui est écrite, qui devrait sonner comme une improvisation. Donc, on gagne une nouvelle liberté rhétorique aussi vis-à-vis du texte. Et bien sûr qu'il faut respecter le texte, mais le texte n'est pas l'art pour l'art, ce n'est pas une raison pour elle-même. Le texte doit aider à créer un sentiment, et ce sentiment doit avoir la liberté d'être déclamé d'une manière libre. Et c'est pour ça aussi que ces projets un peu à côté du chemin classique nous fascinent, parce que ça donne des nouvelles perspectives vis-à-vis du répertoire classique.
Thank you.
Cette liberté que vous avez évoquée, j'imagine que c'est quelque chose qui est dur à acquérir. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose quand on se lance dans une éducation musicale au début, quand on commence, et que j'ai une éducation stricte, etc. C'est à quel moment vous l'avez attrapé, vous avez commencé à sentir justement rapidement, c'est venu en vous, ça s'est fait progressivement.
Progressivement. Et il n'y a jamais une fin à ça. Donc on peut continuer à toujours devenir mieux avec ça. Et ça, c'est un processus qui nous va accompagner toujours. Et j'espère qu'on va encore avoir beaucoup plus de projets comme ça pour développer ça encore.
Je crois que vous enseignez aussi. C'est quelque chose d'important aussi dans votre vision globale de la musique, l'enseignement, la transmission.
Ah oui, absolument. Parce qu'on ne fait jamais la musique pour nous. Mm. Enfin, dans notre conception, dans ma conception, c'est toujours pour les autres. Pour moi, je m'en fous. Je ne me mets pas à la maison et je joue du Schubert parce que je trouve ça beau. Je joue du Schubert parce que je cherche quelque chose pour transmettre à un public ou à quelqu'un qui je peux faire une chair de poule ou faire pleurer ou quelque chose comme ça. C'est toujours avec une projection. Et la même chose, c'est d'ailleurs le grand... comment ça se dit, privilège. Vraiment, et j'ai dit ça sans ironie, le privilège des amateurs, c'est sans qu'ils peuvent faire ça. Et comment je dessine, par exemple, moi je le fais pour moi, parce que j'adore. Et sans une idée que ça doit plaire à quelqu'un d'autre, mais un musicien professionnel, je crois qu'il a toujours cette espèce de projection. Techniquement parlé, par exemple, quand je travaille une pièce, je vais toujours le jouer d'une manière qu'elle ne sonne pas bien à mon poste. Ça doit sonner bien dans la salle, donc 20 mètres derrière. Donc parfois, à mon poste, ça sonne un peu dur, un peu hyper articulé. Mais c'est l'idée que l'écouteur comprend le message et pas moi sur mon siège, je trouve ça joli. Et c'est la même chose avec l'enseignement. Donc on a tant reçu par des grands quatuors, je crois que c'est une espèce de rotation de l'évolution qu'il faut repasser à une autre génération. Et heureusement, il y a beaucoup d'intérêt pour le quatuor parmi les jeunes ensembles maintenant. Et je trouve ça super important de passer son expérience à une autre génération. Et même si nous sentons jeunes, mais on n'est plus tellement jeunes. Donc maintenant, on peut repasser quelque chose.
Vous avez dit tout à l'heure que vous écoutiez beaucoup, beaucoup les enregistrements historiques quand vous étiez plus jeune. Quel mélomane vous êtes aujourd'hui ? Est-ce que vous écoutez beaucoup de disques ? Est-ce que vous allez beaucoup au concert ? Est-ce que vous avez des phases ? Comment ça ? Quand vous prenez l'avion, le train, vous avez un casque sur les oreilles en écoutant de la musique ? Ou non, vous écoutez plutôt le silence ?
Ça dépend. Quand je joue beaucoup, moi-même, j'aime pas trop écouter encore dans mon temps libre. Donc, j'aime bien le silence. Mais je suis mélomane d'autres formes d'art. J'aime bien m'inspirer dans le théâtre ou dans les expositions ou le cinéma. J'adore le cinéma, par exemple. Mais j'adore pas trop aller au concert classique.
Ou même d'autres choses. Vous pouvez peut-être aller au concert de jazz.
Oui,
ou de
ça
rock,
j'adore.
Ou autre,
oui,
musique du monde.
Oui, aussi.
Il y a deux types de musiciens. Il y a ceux en général qui n'écoutent rien du tout et ceux qui aiment bien écouter des choses vraiment opposées à ce qu'ils font.
Oui, je suis plutôt la deuxième catégorie.
Quels sont les projets ? Vous avez envie de quoi avec le quatuor dans les prochaines années en termes d'enregistrement ou en termes de répertoire à aborder ?
Il y a plein de projets, mais ce sont encore des secrets, donc je ne veux pas trop en parler. Mais. La saison prochaine, par exemple, on va faire un grand apogée sur le compositeur Mendelssohn. C'est nouveau pour nous. Et on a joué de temps en temps à Mendelssohn, mais c'est une musique superbe. Donc je suis sûr qu'on va aussi l'enregistrer un jour. Et peut-être on se revoit ici pour parler de, Mendelssohn.
Bien, et donc vous serez le 18 juin aux Têtes des Champs-Élysées, c'est ça ?
Oui.
Vous jouerez du Schubert, j'imagine.
Du Schubert, Rosamund, du Haydn, on commence par Haydn et puis Ravel, parce que cette saison, on avait une petite apogée sur les grandes œuvres françaises. On a fait Ravel, Debussy et Dutilleux. Surtout après Beethoven, ça a été un bon contraste. Parce qu'on trouvait, après Beethoven, jouer Brahms, ça ne va pas vraiment. C'est trop proche. Donc on s'est décidé de prendre des œuvres avec un esprit un peu différent de ça. Ouais. Et on a adoré. D'ailleurs, c'était un vieux rêve de moi de jouer l'Équateur de Debussy.
Bien. Donc je rappelle que votre album Schubert avec La jeune fille et la mort, l'Équateur Rosamund II et l'Équateur en sol majeur vient de sortir chez Virgin Classic. Merci beaucoup, Eckhard Runge.
Merci à vous.
Rencontre par Marc Zisman.